CFM Villefranche, le mag.
Le mag, oui, de ce lundi 15 novembre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre et bon début de semaine en compagnie des programmes de votre radio CFM. Le mag du lundi, c'est Santé, Bien-être, Fleurette, Pâquerette et Assiette pour commencer avec Karine Justo, nutritionniste, diététicienne, intervenante en goût. Bonjour Karine.
Et bonjour David et bonjour à tous les auditeurs.
Ça s'est rafraîchi là, ça picote un peu. Hein, c'est novembre carrément, là, on sent que,
que l'hiver approche.
Winter is coming. On va parler, c'est le retour de Didier Valette, c'est la chronique à épisode Didier Valette, sommité fleurie, et on va continuer à parler, à explorer la biodynamie avec Didier tout à l'heure dans une deuxième partie d'édition du magazine d'actualité. De quoi allez-vous nous chafouiner les oreilles, nous rassasier même les oreilles parce qu'il est question de ça?
Eh bien justement, l'hiver arrive, on commence à pas avoir chaud, c'est un peu propice aux infections, on est beaucoup à l'intérieur, les fenêtres sont pas ouvertes, chez les enfants, mais pas que d'ailleurs, le risque de transmission de virus, de bactéries est important. Donc je vous propose une petite rubrique, juste pour quelques conseils pour booster son système immunitaire en fait, pour essayer que notre hygiène de vie, on va dire de façon extrêmement générale, nous permette de rester en forme tout l'hiver. Ça peut pas faire de mal, de toute façon.
Et puis pour bien préparer l'hiver, une petite cure de vitamine C, D et de spiruline et on est parfait.
Avant de parler de l'alimentation et de ce genre de choses, effectivement, en dehors de l'alimentation, d'après vous, juste deux petits items, mais dont nous on parle tout le temps dans nos consultations diététiques et qui nous aident justement à avoir un système immunitaire qui soit...
Vous n'êtes jamais malade, vous, Karine?
Jamais, c'est vrai, vous avez raison. Je suis jamais malade, mais je râle pas non plus, vous savez. Alors d'après vous, en dehors de l'alimentation, qu'est-ce qui peut être intéressant de raisonner aussi pour booster son système immunitaire?
L'activité physique.
Exactement.
C'est ça?
Entre autres,
bingo,
l'activité physique. Effectivement, ça va permettre, on le sait, on va faire tout un tas d'hormones qui vont être très positives pour notre santé. Et il y a autre chose aussi qui est très important à gérer pour booster ce système.
Boire de l'eau.
Alors, en dehors de l'alimentation.
En dehors de l'alimentation, c'est bien dormir.
Exactement.
Avoir un sommeil réparateur. Je dirais que ça se passe là aussi, même si on n'est pas là pour voir. Un bon sommeil,
alors,
ça peut aider.
Alors, un bon sommeil réparateur, c'est effectivement réparateur dans le sens où, vous savez comment ça fonctionne le sommeil. Il y a des cycles de sommeil, d'accord, qui durent 1h30 si ma mémoire est bonne.
Ah bon, je croyais que c'était 3h, moi.
Non, c'est 1h30. Et à chaque cycle, il y a 3 sommeils différents qui entrent en compte, enfin qui se mettent en œuvre et dans des proportions différentes à chaque cycle, d'accord? Et donc à chaque cycle et à chaque sommeil va correspondre en fait une sécrétion d'hormones, ok? Avoir un sommeil réparateur, c'est effectivement avoir un sommeil où on ne va pas se réveiller. Le nombre d'heures, ça c'est propre à chacun, c'est individuel, il y a des gros dormeurs, il y a des petits dormeurs, c'est génétique et on ne pourra jamais rien y faire. En revanche, d'essayer de ne pas avoir d'interruption dans son sommeil, c'est important parce que sinon, à chaque réveil, on recommence le cycle au début quand on se rendort. Du coup, y a des hormones qui ne vont pas se produire parce que tel type de sommeil, on ne l'aura pas au bout du compte. Vous voyez ? Donc un sommeil réparateur, ce serait plutôt ça. Ce n'est pas tant le nombre d'heures, c'est vraiment la qualité du sommeil. C'est essentiel. Alors là, on parle du système immunitaire, mais j'en profite juste pour le glisser, que c'est essentiel aussi sur les problèmes de poids, parce que pendant certaines phases de sommeil, on va sécréter les hormones de la satiété, de la faim, etc. Donc ça, c'était vraiment sur l'hygiène de vie générale, mais c'est vrai que si on mange bien, puis qu'à côté notre hygiène de vie est désastreuse, ça va forcément être moins optimal. En tous les cas, comment on va faire pour booster notre immunité? On fait le plein de vitamines. La vitamine C, vous savez où on la trouve?
Dans l'acérola.
Alors, si vous voulez, de façon plus simple à trouver, vous allez sur le marché.
Le citron.
Les agrumes en général, le kiwi également, agrumes. Et puis j'ai envie de dire, au-delà de ça, tous les légumes, tous les fruits. Et il n'y en a pas du tout dans le monde animal, par exemple, de la vitamine C. Et alors, en référence à ce qu'on disait il n'y a pas si longtemps sur une autre rubrique, on va essayer d'avoir dans la journée une ou plusieurs fois idéalement des végétaux qu'on va manger crus. Donc, par exemple, quand je travaille en EHPAD, c'est une des choses très importantes, c'est d'avoir un végétaux cru à chaque repas.
Vous avez dit hydrosoluble, pas liposoluble?
Les deux. Si on fait cuire des légumes dans de l'eau et qu'on jette l'eau, c'est dommage parce qu'on perd une partie des vitamines. Donc, vraiment, on essaye d'en consommer déjà, ça c'est déjà une première chose. Et en plus, on essaye d'en avoir des crus. D'accord. La vitamine D, on en parlait aussi l'autre jour. Au-delà de l'exposition, effectivement, qui, on en avait convenu ensemble, n'est pas suffisante, on peut trouver de la vitamine D dans nos aliments. Là, c'est l'inverse de la vitamine C. On n'en trouvera dans aucun aliment végétal. On ne trouvera notre vitamine D que dans les aliments d'origine animale, comme par exemple, vous le savez peut-être...
Les poissons gras.
Exactement. Vous les savez
les
reconnaître ?
Les sardines, le saumon, le maquereau.
Tout ce qui a une chair plutôt orange, rosée, etc. D'accord ? Le foie de morue, les choses comme ça. Donc ça, vous pouvez en consommer. Et vous allez aussi en trouver dans les laitages entiers. La vitamine E, elle, là, on va la trouver, cette vitamine E, à la fois un petit peu dans le monde végétal, avec les huiles. D'accord, colza, olive par exemple. Et puis tout ce qui est graines oléagineuses. Ah. Il est conseillé d'en consommer un petit fond de main quotidiennement.
Vous avez une petite main.
Ben oui, mais ouais. C'est en rapport aux besoins énergétiques justement. Et dans le monde animal, on va trouver cette vitamine E dans les œufs, dans l'huile de foie de morue ou des choses comme ça. Je rappelle que les œufs sont un excellent... Enfin, l'œuf est un excellent aliment à tout point de vue, que ce soit les protéines ou autres. Et même si on a un petit peu de cholestérol, on peut consommer des œufs jusqu'à un par jour. C'est pas délire. D'accord.
Un petit œuf dur, là. Bah, dès le matin, avec notre cabécou de l'autre jour. Là.
Oui, ouais, pourquoi parfait. Pas. Après, ça fait un apport en la famille viande, poisson, œuf qui est important. Donc,
oui,
il faut le
mais vous savez comment on est. On équilibre le midi ou le soir.
Ah, c'est une réponse parfaite, David. On fait le plein aussi de zinc, ça vous inquiétait beaucoup cette histoire de zinc l'autre jour, je me souviens.
Mais oui, parce qu'on en trouve peu en fait dans notre... Il faut aller chercher le zinc.
Et oui, c'est ça. Alors c'est aussi un antioxydant, ça va permettre par exemple à des gens qui seraient blessés d'avoir une meilleure cicatrisation, etc., etc. Là, on va les trouver effectivement dans moins d'aliments, mais quand même un aliment qu'on mange assez régulièrement.
Des huîtres.
Les huîtres pour le monde animal, pardon, effectivement. Le foie de veau.
Non, stop. On arrête cette chronique, on rend l'antenne. Le foie de veau.
C'est très bon. Moi, personnellement, David, j'adore le foie de veau.
Mais ça a une odeur.
Non, vous ouvrez la fenêtre. Vous coupez le radiateur, ouvrez la fenêtre.
Et je me pince le nez quand je mets une fourchette.
Ouais. Alors, les auditeurs, il y en a, j'en suis sûre, qui seront d'accord avec moi. C'est très bon. Dans le bœuf, un petit peu, on en trouve également. Vous êtes sauvés.
Le foie de bœuf ?
Non, le bœuf tout court.
Arrêtez avec le foie.
Et les huîtres, si vous aimez les huîtres. Alors, ça, c'est effectivement
on peut parler.
Un bon apport.
Là, vous pouvez rester.
Et pourtant, je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui n'aiment pas les huîtres.
Eh bien, tant pis pour eux. Mais oui, mais ça, c'est la légende. Oh, un jour, je suis tombé sur une mauvaise. J'étais malade pendant 3 jours.
Malheureusement, ça arrive.
Eh bien, tant pis. Ça en laisse plus pour les autres à Noël. Et toute l'année, d'ailleurs.
On va retrouver aussi dans le monde végétal du zinc, dans les lentilles, dans les germes de blé, dans les graines de courge. Voilà. Par contre, tout
J'aime
ce qui est
graines,
je fais une petite parenthèse. Attention, c'est quand même des aliments hyper énergétiques. Donc, on en consomme certes, mais on fait attention.
Oui,
d'accord ?
Là, on se rapproche de l'hiver.
On parle un petit peu du fer.
Le fer, oui.
Le fer, qui est un constituant, je le rappelle, on le disait l'autre jour aussi, de l'hémoglobine.
Et que Popeye est un escroc.
Et que Popeye est un escroc, exactement. On en trouve un petit peu, il ne faut pas exagérer, dans les légumes, mais très très peu.
J'avais bien aimé, pardon, je vous coupe tout le
temps
sans cesse.
Oui, vous coupez tout le temps,
c'est désagréable.
J'étais en train de le dire, je suis sûre que vos auditeurs, ils le disent aussi dans leur voiture.
Mais c'est totalement désagréable, je m'en veux pour la peine. Mais non, c'était pour revenir sur une de vos interventions. Sur nos croyances autour de l'alimentation, il n'y a pas tant de fer que ça, et c'était suite à une erreur en fait, une histoire de virgule de calcul pour le fer dans les épinards.
Quand la personne qui l'avait testé la première fois avait relevé la teneur en fer de l'épinard, il avait déplacé la virgule et
paf, ça avait donné.
Il y a des choses comme ça qui restent ad vitam. Ah,
j'ai bien fait de vous couper quand même, c'était des petits rappels comme ça.
C'est mignon. En tous les cas, le fer à toutes fins utiles, on va rappeler qu'on le trouve dans toutes les légumineuses, lentilles, pois cassés, pois chiches, etc., dans le quinoa, dans les amandes de nouveau, et version aliments animaux, dans la viande rouge de nouveau, dans le boudin noir, si vous aimez ça.
Ah oui, j'adore ça.
Vous voyez,
mais pas les pommes qui vont avec, des fois, boudin ou pommes.
Laissez tomber les pommes sur ce coup-là.
Ouais,
dans les poissons, les œufs de nouveau. D'accord.
Ah, les œufs, décidément.
Voilà, si vous voulez, pour booster son système immunitaire, pardon, je vais y arriver, ce qu'on pouvait dire, parce que comme vous m'avez beaucoup coupé, vous me faites des grands signes, je vois bien que c'est terminé, la rubrique.
Absolument.
Donc je vous abandonne là. Et je dis bonne journée et prenez soin de vous, à tous vos auditeurs.
Merci Karine. Ben voilà, système immunitaire. Donc aujourd'hui, et comment le préparer là pour aborder l'hiver qui arrive. On retrouve l'intervention là sous peu en podcast sur le site cfmradio.fr. La suite du programme, comme je l'annonçais, Didier Valette. On va parler une nouvelle fois biodynamie aujourd'hui sur l'antenne et après la musique.
CFM Villefranche, le mag.
Le magazine d'actualité, la suite, et les lundis, santé, bien-être, fleurette, pâquerette, avec le retour dans les studios de Didier Valette, sommité fleuri de la biodynamie. En plus, ça rime, j'adore. Bonjour Didier.
Bonjour David.
Alors aujourd'hui, on s'était donné rendez-vous, j'allais dire, oui, tous les 15 jours maintenant, on prend ce pli pour parler de biodynamie, mais pas que. Parler du dynamisme des forces du vivant, et on avait convenu de commencer à explorer les plantes, et notamment les plantes qui servent de préparation de base à la biodynamie. Mais ce n'est pas des plantes qu'on prend comme ça et qu'on jette dans son compost. C'est un petit peu plus compliqué que ça, et vous allez nous en parler dans un instant. Avant, peut-être une chose, c'est quoi une plante ?
Alors, une plante, déjà, c'est un organisme vivant. Comparativement à un caillou, un minéral, qui n'est pas vivant. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un être est vivant ? C'est qu'il évolue. Mais à partir de lui-même, un caillou, il peut évoluer par la force de l'eau, du vent. Vous prenez une masse, vous le cassez en morceaux, vous pouvez le réduire en poudre. Du grès, on peut le réduire en sable. Une plante, elle va évoluer. Elle n'est jamais la même depuis le cotylédon, c'est-à-dire quand le germe sort de la graine jusqu'à ce qu'elle meure. Elle va toujours changer de forme. Quand on apprendra un petit peu à la regarder, on parlera tout à l'heure du pissenlit et on verra quand vous l'observez, en ce moment on peut en revoir comme au printemps, que et du jour au lendemain, il va changer de forme. Quelque part, les feuilles ne vont pas avoir la même forme, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le principe qui fait que un être vivant, à chaque seconde, il y a des cellules qui meurent. Et il y a des cellules qui réapparaissent. Et il va sans arrêt en évolution, mais... alors, bien sûr, l'extérieur peut intervenir, comme vous.
L'environnement.
Vous pouvez tomber et vous fracturer un os. Ça, c'est c'est l'extérieur qui va vous modifier. Mais par contre, quand l'os va se ressouder, c'est vos forces de vie qui vont faire que ça se ressoude. Donc... là, on introduit la notion qu'on n'est pas seulement qu'un corps physique, une plante, ce n'est pas qu'un empilement d'atomes ou de molécules. C'est vrai qu'on peut trouver des principes actifs, des molécules et des choses comme ça, mais la plante, elle n'est pas que ça. Si on met tous ces principes, toutes ces molécules dans un bécher, dans un bocal, et qu'on remue ou qu'on mette à la lumière ou à la chaleur ou n'importe quoi, on n'obtiendra pas la plante. Qu'est-ce qui fait la plante ? C'est qu'elle a, c'est vraiment les principes de l'agriculture biodynamique, c'est qu'en plus de son corps physique, elle a ce qu'on appelle un corps de vie. Quelque chose qui fait qu'elle va rester, qu'elle va pouvoir perpétuellement évoluer. Ce qui fait que nous, en tant qu'êtres humains, depuis la naissance jusqu'à la mort, on va pouvoir évoluer, on va pouvoir cicatriser quand on se fait des blessures. Par contre, le jour de la mort, ce corps de vie se sépare du corps physique, et le corps physique n'est plus rien, il ne peut plus, il va se décomposer, il va retourner à la nature. Donc, voilà, une plante, c'est ça. Et on pourrait aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'un animal par rapport à une plante ? Parce qu'on sait reconnaître dans la nature, ça c'est une plante, ça c'est un animal. Pourquoi on ne va pas dire qu'un ver de terre est un animal ? Est une plante. Le ver de terre lui-même, il est toujours en train de se transformer par lui-même. Et ce qu'il a de plus, l'animal, mais on va prendre des animaux, peut-être pas le ver de terre ou des animaux très primaires, c'est moins facile, on va prendre des animaux supérieurs, des mammifères par exemple, c'est qu'ils ont une certaine sensibilité. Ils sont capables d'antipathie, de sympathie, de se battre, de... Voilà. Donc ça, la plante ne l'a pas en elle. Elle l'a extérieurement, c'est-à-dire il y a des plantes compagnes, il y a des plantes qui sont en sympathie avec d'autres, mais c'est pas, elle ne le vit pas en elle-même quelque part. C'est extérieur à elle, et ça va être par des phéromones qu'elle va émettre par les racines, qu'elles vont repousser d'autres plantes, et ainsi de suite. Donc ce côté émotionnel, hein, c'est les émotions, en fait, du sentiment, de la sensibilité. Alors, il ne faut pas mettre dans des cases, parce que certaines plantes sont déjà assez avancées. Dans l'évolution, plus les plantes évoluent dans l'échelle d'évolution, plus elles se rapprochent du règne animal. Par exemple, les légumineuses, vous prenez un haricot, il ne peut pas se déplacer. Oui, j'ai oublié de dire, l'animal, il a la possibilité de se déplacer. La plante, elle est ancrée à son environnement. Mais le haricot, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire des vrilles qui vont aller chercher une branche un peu plus loin pour se déplacer quelque part. Les racines ne se déplacent pas, mais la plante essaye d'aller plus loin. Donc c'est déjà une forme de sensibilité, parce qu'il faut faire l'essai. Vous mettez un petit bâton planté en terre à côté d'un haricot, et vous le regardez tous les jours, vous allez voir la tige se rapprocher petit à petit du bâton et s'enrouler quelque part. C'est un geste presque animal, vous voyez. Et les plantes les plus évoluées dans l'évolution des plantes, ce sont les orchidées. Elles sont capables d'imiter un insecte particulier et d'émettre une phéromone qui attire l'insecte pour venir se faire polliniser. Donc elles ont un rapport avec le monde animal très très grand. Donc ça, c'est le troisième corps qu'il y a autour des êtres vivants. Les plantes, elles n'ont que le corps physique et le corps de vie. Les animaux, ils ont en plus un corps de sensation, un corps d'émotion, si on veut, qui les accompagne, qui sont incarnés en eux. Et l'homme, c'est un animal, il a ses trois corps, c'est une plante aussi, il a les deux premiers corps. L'homme a tout en lui. Il a en plus la faculté de dire « je suis moi ». Et je ne suis pas l'autre, de se différencier de l'autre. L'animal est beaucoup plus dans le troupeau. les animaux sauvages. Hein. Mm-hmm. L'animal domestique, il a déjà, l'homme lui a donné une certaine individuation en le nommant, en l'appelant par un nom, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est le quatrième corps qu'il y a, que des gens qui sont voyants peuvent voir autour de votre corps physique. Il y a des enveloppes.
Ouh là là, vous nous faites peur, Didier Valette.
Moi, personnellement, je ne le vois pas. Mais il y a des gens qui voient l'aura des gens, qui voient le corps de sensation, des gens qui s'approchent l'un de l'autre et qui voient des changements de couleur parce que... ils ne s'entendent pas, ils ne vont pas être... moi, personnellement, je n'ai jamais vécu de telles choses, mais il y a des gens qui le décrivent. Donc, voilà, on ne peut comprendre la biodynamique que s'il y a cette approche très sensible des choses, c'est-à-dire que les êtres vivants, contrairement à l'inanimé, ne sont pas constitués que d'un empilement d'atomes, de molécules ou d'ions. Il y a des corps qu'on pourrait appeler énergétiques autour, que le psychique intervient avec les émotions, voilà. Donc, on ne peut aborder la vision biodynamiste des plantes et implique qu'on aborde tous les êtres vivants avec ces notions-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas tant d'agriculteurs biodynamistes aussi, parce que quelque part, c'est... voilà. C'est pas remettre en cause toute la science, ce que la science a construit autour des empilements de molécules. Bon, personnellement, je suis ingénieur chimiste et je remets pas en cause ce que j'ai appris pendant mes études. Mais on va un peu plus loin, quelque part, pour expliquer les choses qu'on ne peut pas expliquer avec ça. Et... après, on voit que dans la pratique, eh bien, on obtient des résultats en partant de ces axiomes qui paraissent très différents des axiomes de départ. Mais il y a un effet quelque part. On voit qu'il y a un effet quand on travaille dans cette direction-là. Donc si on veut en prendre un tout petit exemple, on pourra l'approfondir après. Hein. Le pissenlit, par exemple, quand vous le regardez pousser, alors déjà, il a des feuilles à la base, le pissenlit, contrairement, vous prenez une menthe, par exemple, elle, les feuilles vont être tout le long de la tige. Le pissenlit, il a des feuilles à la base, c'est comme s'il était très pressé de fleurir tout de suite. Il n'a pas le temps de monter une tige, quelque part. Il est très, très pressé, parce que, voilà, c'est le printemps, vite, 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 il faut... il faut tout de suite intervenir, il faut tout de suite fleurir, et il va faire des fleurs... Alors, ce qu'on appelle la fleur du pissenlit, en fait, c'est un bouquet de fleurs. Cette fleur, ce qu'on appelle la fleur jaune, c'est un bouquet de fleurs parce que c'est une multitude de fleurs. Chaque pétale est une fleur. Chaque pétale peut se faire polliniser. Chaque pétale a un principe mâle et un principe femelle. Et après, la graine, ce n'est pas une seule graine, c'est une multitude de graines qui forme ce petit qu'on aime bien souffler, sur lequel on aime bien souffler quand on est enfant ou qu'on est resté enfant en étant adulte, et de voir toutes ces petites graines s'envoler avec leur petit parachute en haut. Donc on voit là ce principe du pissenlit, qui est une plante très très rapide. La feuille, au tout début, elle est toute ronde, on dit lancéolée, c'est-à-dire les bords sont lisses, hein, elle a une forme de lance, de pointe de lance, disons, et les secondes feuilles, elles s'échancrent et font comme un petit sapin. Et la plupart du temps, les feuilles, quand elles sont échancrées, vous prenez la feuille de chêne, par exemple, les pointes, elles sont tournées, elles vont de l'arbre vers l'extérieur. Tandis que là, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est des pointes vers le bas, quelque part dans la... Donc voilà, on pourra approfondir le pissenlit, on approfondira chaque plante, mais il faudrait...
se donner rendez-vous, c'est ce que j'allais voilà. Reprendre la main pour dire, on ne parle pas de pissenlit au hasard, c'est que le pissenlit, c'est l'une des 6 plantes utiles pour la préparation de base en biodynamie.
Et qui a beaucoup de propriétés médicinales aussi, et on pourra voir un petit peu entre ce geste qu'il a, comment ça dénote ses forces de vie, comment il peut intervenir sur notre vie à nous ou sur la vie du sol quelque part, ou des animaux.
On ne parle pas de mauvaise herbe, hein, là, Didier Valette. Hein, enfin, on s'accordera une émission sur ce qui est qualifié de mauvaise herbe. Oui. Il n'y en a pas au final.
Non, la plupart des, ce qu'on appelle des mauvaises herbes, l'achillée millefeuille dont on parlera, l'ortie, ça peut être considéré comme mauvaise herbe.
Oui, mais alors elles sont bio-indicatrices, elles ont cette capacité de nous donner des informations
plus,
sur...
Voilà, elles nous donnent des informations dans leur comportement, comme d'observer un animal, on peut voir est-ce qu'il est dangereux, est-ce qu'il n'est pas dangereux, un être humain, pareil. Donc,
c'est encore une fois passionnant, mais je vois le chrono qui file, Didier Valette, je vous propose qu'on se donne rendez-vous dans deux semaines pour s'arrêter concrètement sur le pissenlit.
On verra un peu plus les plantes des préparations.
Merci Didier, excellente journée, à dans deux semaines.
Au revoir.
CFM Villefranche, le mag.